pour que nous soyons à cheval véritablement sur l'application dans nos actes de tous les jours de la morale du corps. Alors, ça, c'est le deuxième filtre par lequel l'islam fait passer le musulman, le croyant, pour le construire et pour l'édifier. Troisième filtre, c'est le culte. Et en réalité, tout cela s'enchevêtre. Tout cela se recoupe. Si vous prenez le culte en islam, vous connaissez les actes cultuels. Et d'ailleurs, en islam, tout est acte cultuel si l'intention est de plaire à Dieu. C'est la raison pour laquelle, lorsque nous prenons le verset du Coran, dans lequel Dieu dit « وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ » Je n'ai créé les djinns et les êtres humains que pour m'adorer. Si nous prenons justement ce mot « adoration » qui est utilisé par ce verset, nous nous rendrons compte que le culte dont il est question, ce n'est pas tout simplement le culte classique que nous connaissons. On fait les ablutions, on prie. Quand le mois du Ramadan arrive, on jeûne. Quand on a les moyens, on fait le pèlerinage. Ça, c'est le culte classique que nous connaissons. Il faut entendre par ce verset, par le mot culte dans ce verset, c'est-à-dire là où Dieu nous dit qu'il n'a créé les êtres humains et les djinns que pour l'adorer. Cette adoration dont il est question, c'est tous les actes que nous faisons qui sont utiles à nous, qui sont utiles à notre environnement, à notre communauté, mais avec l'intention de plaire à Dieu. Donc en islam, en réalité, la frontière entre le sacré et le profane, entre ce qui est cultuel et ce qui ne l'est pas, est une frontière qui est extrêmement fine. Il suffit donc de l'intention. On peut multiplier les exemples. Lorsque quelqu'un est fatigué, il veut dormir. Son intention, c'est de dormir pour prendre plus de force et mieux adorer Dieu. Le fait de dormir, il est en train de dormir, mais il est en train d'adorer Dieu à travers le sommeil. Par exemple, quelqu'un qui a passé la nuit, comme ce que nous allons faire, Inch'Allah, tout à l'heure, à prier Dieu. Jusqu'à l'aube. Évidemment, à la fin, il se sent fatigué. Il fait sa prière du Fajr. Le matin, quand il a fini sa prière de Fajr, s'il a un peu plus de force, il s'assoit pour lire son Coran, c'est ce qui est préférable, jusqu'à ce que le soleil sorte. Une fois que le soleil sort et qu'il va à une hauteur, par exemple, de quelques mètres, que le soleil, la rougeur disparaît, le rouge du soleil disparaît, ensuite, il fait deux rakas, il est donc fatigué, il va dans sa chambre, il se met à dormir. Ce sommeil qu'il est en train de faire, après avoir travaillé pour plaire à Dieu, dans ce sommeil, en fait, il est en train également d'adorer Dieu et il est récompensé comme tel par Dieu. Voyez-vous, quelqu'un qui décide de se marier, le mariage, apparemment c'est quelque chose de profane, qui décide de se marier, mais son intention, c'est de se mettre à l'abri de l'illicite. Par cet acte, il est en train d'adorer Dieu. Quelqu'un qui décide de voyager pour aller faire une transaction commerciale quelque part, dans l'intention de se mettre à l'abri du besoin vis-à-vis des autres. Il voyage, il va, il fait ses transactions commerciales, il signe ses contrats, etc. Il fait son commerce. Mais son intention, c'est d'avoir les moyens qui lui permettent de se mettre, lui et les membres de sa famille, à l'abri du besoin, pour qu'il n'aille pas mendier, pour qu'il ne quémande pas, parce que nous savons que mendier en islam est interdit, c'est illicite de mendier, parce que ça va à l'encontre de la dignité de l'être humain. Alors, s'il le fait avec cette intention, il est en train d'adorer Dieu et il est récompensé comme tel. Donc, nous pouvons multiplier les exemples. Alors, le culte, donc, est un autre filtre, après le dogme, après la morale, par lequel l'islam fait passer l'être humain dans ce processus de construction et d'édification de l'homme, du citoyen musulman, du croyant et de la croyante. C'est la raison pour laquelle le prophète a dit, alayhi salatu wassalam, ou c'est le Coran d'ailleurs qui l'a dit, ça a été étayé ensuite par un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, « Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar » Très certainement, la prière, si elle est bien faite, telle qu'elle a été recommandée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, telle qu'elle a été faite par le prophète alayhi salatu wa sallam. Parce que dans la prière, le prophète nous a dit, Sallu kama ra'aytumuni usalli, priez comme vous me voyez prier. Le Coran a dit inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. Très certainement, la prière met le croyant ou la croyante à l'abri de l'insolide et de la turpitude, c'est-à-dire à l'abri du péché. Lorsque vous priez normalement, vous n'avez pas le temps de commettre la turpitude, de commettre l'insolite. Parce que la prière, par la prière, vous allez prendre de l'énergie divine, pour vous donner de la force. Parce que à travers la prière, vous rentrez en communion avec Dieu. À travers la prière, vous conversez avec Dieu. Vous rentrez dans un dialogue avec Dieu. Parce que si vous lisez Suratul Fatiha que nous lisons dans la prière, vous verrez que c'est un véritable dialogue entre le fidèle, entre le croyant ou la croyante et Dieu subhanahu wa ta'ala. Et cela a été explicité dans un autre hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi donc, les actes cultuels constituent un filtre par lequel l'islam fait passer l'individu pour le construire, pour l'édifier, pour le valoriser, pour l'élever vers Dieu. Nous avons un autre filtre. Le filtre de la loi. La charia qui est là, qui en plus d'être un filtre, est si vous voulez, la gendarmerie ou la police. Et de quelle manière? C'est la raison pour laquelle, parce que moi je voulais en venir, en fait, je suis en train d'exemplifier le côté juridique, le contenu, la perfection et le caractère miraculeux, divin et authentiquement divin du contenu, du fond du Coran. Nous avons parlé de la forme, nous sommes en train de parler du fond. Dans le fond, nous avons parlé de l'application de la loi du talion. Pourquoi l'application de la loi du talion représente une vie, non seulement pour les individus qui forment la communauté de l'islam, mais également pour la communauté elle-même dans son ensemble. Après avoir traversé tous ces filtres que nous venons de citer, lorsque nous avons pour autant un individu qui se permet d'ôter la vie injustement, c'est à cela que je voulais en venir. Il s'agit d'une maladie. C'est une personne en fait qui est malade. Et à cette personne, on applique une opération chirurgicale dans le tissu. Une opération chirurgicale dans le tissu de la communauté pour extraire cette tentacule de ce cancer qui risque de prendre, n'est-ce pas, le tissu ou le corps de la communauté. On fait donc une opération chirurgicale, on extrait ce membre qui est malade. S'il a tué une personne, on le tue. Donc on verse du sang, exactement comme lorsqu'on fait une opération chirurgicale, parce que du sang est versé. Mais du sang qui se verse de manière légitime et de manière juste. On extrait donc ce mal et on sauve le reste du corps. Exactement comme un corps organique d'un être humain qui est atteint, waliyazu billahi, de cancer, un membre qui est atteint de cancer, il n'y a pas d'autre solution que de faire une opération chirurgicale, de ciseler ce membre qui est malade ou cet organe qui est malade pour pouvoir sauver le reste du corps de cet être humain qui retrouve de nouveau sa santé, donc sa vie. De la même manière, on procède à une opération chirurgicale. S'il s'agit de quelqu'un dont la maladie est tellement grave au point qu'il a tué un membre de la communauté, on doit le tuer pour l'extraire. Si c'est quelqu'un qui a coupé un membre, on lui coupe un membre, ainsi de suite. Donc, c'est l'application de la loi du talion qui permet de préserver cet organisme uniforme que constitue donc la communauté de l'islam. Et cette image que je viens de vous proposer n'est pas de moi, elle est du prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même. Car le prophète a dit alayhi salatu salam dans un hadith: Mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim, ou comme a dit sallallahu alayhi wa sallam, kamathalil jasadi iza ishtaka minhu udwun tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahri wal-humma. Ou comme a dit Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Cette image, c'est le prophète qui nous l'a proposé, alayhi salatu salam. En effet, il a comparé la communauté musulmane, la communauté des croyants et des croyantes qui se constitue autour du Coran. Parce que ne l'oublions pas, cette communauté se constitue autour du Coran. Le prophète alayhi salatu wasalam a comparé cette communauté à un corps humain, à un organisme humain. Il a dit donc, je vous traduis le hadith, le prophète a dit alayhi salatu wasalam, on peut comparer les membres de la communauté musulmane dans l'amour, la compassion, la solidarité qu'ils éprouvent les uns vis-à-vis des autres. On peut les comparer à un corps organique, à l'organisme d'un être humain, dont une partie, dont lorsqu'une partie est atteinte d'un mal quelconque, c'est tout le reste de ce corps, c'est tout le reste de cet organisme qui ressent ce mal. Et nous le savons, lorsque l'orteil de quelqu'un, d'un d'entre nous, ressent un mal donné, son orteil ou son doigt, où la plus petite partie de son corps ressent une douleur, nous le savons, c'est tout le reste du corps qui ressent cette douleur. C'est de cette manière-là, c'est cette image-là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné de ce que doivent être les relations entre les membres de la communauté de l'islam qui se constituent autour du Coran. Il y a beaucoup de choses à dire par rapport justement au Coran. Nous avons parlé donc très brièvement en fait, du fond du Coran. Nous n'avons parlé que des aspects juridiques, si vous prenez sur le plan historique, sur le plan scientifique. Puisque je m'adresse à des gens, des intellectuels, à des cadres, je souhaiterais bien faire quelques rappels ou bien parler un tout petit peu de l'aspect scientifique du Coran. Ça, c'est véritablement la partie la plus éloquente, la plus miraculeuse, à mon avis, de ce que représente le Coran, subhanallah. Des énoncés scientifiques, purement scientifiques, que vous trouvez dans le Coran, mais des énoncés scientifiques qui sont là, non pas pour nous dire que le Coran est un traité de science, mais pour nous démontrer jusqu'à présent l'unicité de Dieu, l'omnipuissance de Dieu, l'omnipotence de Dieu. C'est pour toujours participer de la démonstration de quelque chose de bien précis, c'est-à-dire pour que nous puissions tous nous retrouver autour de Dieu, pour que nous puissions tous tendre vers Dieu, pour que nous puissions tous vivre dans la transcendance. Sur le plan scientifique, nous n'avons pas le temps de rentrer dans les détails, mais nous avons plusieurs versets qui concernent la médecine, notamment l'embryologie, la botanique, la zoologie, l'astronomie, etc., etc. Et les exemples, si je dois prendre un seul exemple pour illustrer le caractère miraculeux et la perfection du Coran, je vais tout simplement prendre entre un autre exemple ce que le Coran nous a dit par rapport au soleil. Ça, c'est hautement scientifique. Imaginez-vous le prophète alayhi salatu wasalam qui est apparu au 7e siècle de l'ère grégorienne. Souvenez-vous, nous sommes aujourd'hui, nous entrons dans le 3e millénaire. On nous le dit à corps et à cri, à travers les médias. Le 7e siècle de l'ère grégorienne, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est apparu. Il était illettré. Il ne savait ni lire ni écrire. Il était sorti dans une zone désertique, où il n'y a pas de développement de sciences et de techniques. Il n'est pas, parce qu'il n'est pas un habitant, par exemple, de l'Inde, de la Grèce, de Rome, de l'Égypte, de la Phénicie, de la Crète, etc., là où on a pu développer les sciences, ou de la Perse. Il est de l'Arabie, précisément de la Mecque, où les gens vivaient, n'est-ce pas, dans une situation de grande ignorance, au point que l'islam a appelé cette période-là Al-Jahiliya, la période de l'ignorance, la période pré-islamique. Et voilà qu'il récite des versets qui aujourd'hui, au 20e siècle, ou même au 21e siècle, nous sommes aujourd'hui au 21e siècle, ou je ne sais pas, nous sommes encore au 20e siècle, c'est dans un an que nous serons au 21e siècle, où le développement des sciences et des techniques prodigieux que nous avons connu nous a permis de découvrir un certain nombre de choses que nous ne pouvons pas découvrir sans la science. Par rapport au soleil, le Coran nous dit que le soleil court vers un point fixe dans le firmament. ce point fixe, le soleil continuera toujours à courir à une vitesse vertigineuse vers ce point jusqu'à l'approche de l'Apocalypse. Il n'atteindra ce point-là que lorsque l'Apocalypse sera très proche, et en ce moment-là, ce sera la fin du monde. Aujourd'hui, et le Coran a bien précisé un point fixe. Wa shamsu tajri li mustaqarril laha dhalika taqdirul aziz al alim. Le soleil court vers un point fixe dans le firmament, et ça, c'est la détermination du Seigneur des mondes, du Dieu puissant, qui est puissant et qui est omniscient, qui a donc la science. Ici, le Coran nous parle de cet attribut de science, de la connaissance, du savoir absolu que Dieu détient. Et aujourd'hui, tout juste au XXe siècle, peut-être la deuxième moitié du XXe siècle, avec les appareils perfectionnés que l'homme a pu découvrir, il a pu se rendre compte effectivement de la véracité de ce verset. Qu'effectivement le soleil est en train de courir vers ce point fixe. Il a même donné un nom à ce point fixe, on l'appelle l'apex solaire. Et cet apex solaire a été identifié, et il se trouve dans la constellation d'Hercule. Ça, c'est un exemple que l'on peut prendre, entre autres, sur les énoncés scientifiques du Coran, qui sont éloquemment scientifiques. Alors, pour conclure, puisqu'on me dit qu'il est temps de changer de sujet. Nous avons une communauté qui a été créée autour du Coran. Des hommes qui sont sortis de l'école du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui sont des hommes exemplaires, qui un siècle après la mort du prophète alayhi salatu wa sallam, nous savons que le prophète est décédé alayhi salatu wa sallam en l'an 632. Et en l'an 732, vous connaissez cet événement. Qu'est-ce qui s'est passé en l'an 732? Les musulmans sont arrivés à Poitiers, où ils ont rencontré Charles Martel. C'est-à-dire que l'espace de l'islam s'étendait du centre de la France, parce que Poitiers se trouve presque au centre de la France. Plus l'Espagne, une partie du Portugal, toute la mer Méditerranée, l'ancien empire byzantin, n'est-ce pas ? L'Empire perse, presque l'Inde, est aux frontières de la Chine. Un siècle après, des gens qui étaient des bédouins, qui n'avaient jamais su ce que c'est que la mer, presque, monter sur la mer, ils n'avaient aucune expérience en matière de navigation maritime, etc. Ils ont pu arriver, d'abord occuper tout cet espace, mais ils ne l'ont pas occupé pour l'occuper. Ils ont amené sur cet espace la civilisation. Au point que, au moment où je vous parle, puisque le Moyen-Âge dont les Européens nous parlent tant, va de l'an 500 après Jésus jusqu'à la Renaissance, c'est-à-dire jusqu'au XVIIe siècle, XVIe, XVIIe siècle. Pendant cette période où les musulmans étaient là, parce que les musulmans sont restés près de 9 siècles en Andalousie, en Europe, les autres étaient dans le Moyen-Âge. Parce que le Moyen-Âge, en fait, en Europe, nous le savons, c'est la période morte qui se situe entre le développement des sciences au niveau la civilisation romaine, de la civilisation grecque, et la Renaissance. C'est une période morte où ils étaient dans les ténèbres, où on croyait à la sorcellerie, aux superstitions, etc. Pendant ce temps, les musulmans, eux, ou précisément l'Europe musulmane, donc l'Andalousie, l'Espagne, vivaient dans la science et dans les techniques. Donc, ils sont venus y installer la science. Et aujourd'hui, c'est pour dire dans la conclusion qu'aujourd'hui, plus que jamais, l'humanité tout entière qui est à la recherche de Dieu peut retrouver Dieu par le chemin que nous offre le Coran. C'est pourquoi, ça c'est un message à l'humanité tout entière, à l'occasion de Laylatul Qadr, les êtres humains, où qu'ils soient, qui sont en train de chercher Dieu, parce que tout le monde recherche Dieu, nous en avons la démonstration, nous pouvons le démontrer. Si vous voulez analyser tout simplement la situation aujourd'hui dans le monde occidental, qui pourtant ont pu réaliser le confort matériel de l'être humain, où les gens créent des religions. On cherche Dieu, on crée des religions, les sectes dont vous entendez parler, où on organise des suicides collectifs, où quelqu'un vient, un imposteur, il vous dit, je crée une nouvelle, j'ai une nouvelle religion, je suis un nouveau prophète, et en fait, des faux prophètes, les prophètes du démon. Et ensuite, il leur propose de se suicider, il va soit les ressusciter, ou bien il va leur donner le paradis selon ce qu'il leur dit. C'est l'humanité tout entière qui est donc à la recherche de Dieu. Il faut que l'humanité comprenne qu'il a besoin de Dieu, il recherche Dieu, il y a un seul chemin qui va vers Dieu, qui est là, qui n'est pas un secret, qui est donc la voie du Coran, le Coran qui a été révélé sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et à ce propos, nous devons, nous les musulmans, véritablement être ces gens-là dont le prophète a parlé. Vous savez que le prophète a parlé de nous, alayhi salatu wa salam. Le prophète était assis dans son majlis, dans sa mosquée. Autour de lui, il y avait ses compagnons. Le prophète, alayhi salatu wa salam, a commencé à parler de nous. Les musulmans, les croyants qui viendront après lui, qui ne l'ont jamais vu, mais qui vont croire en lui, au même titre que ceux qui sont là autour de lui. Et il a commencé à parler de ces gens-là que nous sommes, Inch'Allah, avec beaucoup de nostalgie et avec beaucoup d'amour. Il a dit, j'aime bien voir mes frères. J'ai envie de voir mes frères. Comme aujourd'hui, chacun de nous souhaite que le prophète soit parmi nous aujourd'hui. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi nous aujourd'hui qui ne souhaite pas que ce soir, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam soit entre nous? Nous le souhaitons tous. Nous tendons tous vers cela. De la même manière, ce jour-là, que nous n'existions pas, lui, il a souhaité nous rencontrer. Il a dit qu'il a envie de voir ses frères. Les compagnons qui étaient autour de lui ont dit, mais, ô prophète de Dieu, mais nous sommes tes frères. Il a dit, non. Antum lastum ikhwani, ou lastum ikhwati, ou lastum ikhwani, antum ashabi. Vous n'êtes pas mes frères, mais vous êtes mes compagnons. J'ai envie de voir mes frères. Et il a dit Touba, Touba lil Ghuraba également. Il a dit Touba, Touba c'est une partie du paradis, est réservée aux Ghuraba. Parmi les gens qui viendront, qui ne l'ont pas vu, qui vont croire à sa mission. Et qui se retrouveront certainement dans des difficultés. Comme aujourd'hui dans bien des pays du monde, lorsque vous dites je suis musulman, vous devenez un être indésirable. Ces gens-là, le prophète a parlé d'eux et il a dit que le paradis leur sera réservé. Une partie du paradis qu'on appelle Touba. Touba vient du mot Tayyib, qui veut dire pur, qui veut dire bon. Donc, il faut que nous soyons comme le prophète l'a voulu, c'est-à-dire les frères là dont il a parlé ce jour-là. Pour que nous puissions, aujourd'hui encore, prendre le Coran, croire au Coran, vivre le Coran, traduire le Coran dans notre vie de tous les jours et présenter le Coran à l'humanité tout entière en tant que sauvetage, en tant que voie qui conduit à Dieu. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa sallamu alaykum wa rahmatullah. La question qu'on donne de la mondialisation. La mondialisation est un phénomène qui a été créé par la civilisation occidentale. Il faut appeler les choses par leur nom. Mais qui, en réalité, à mon sens, peut leur échapper, c'est-à-dire un enfant qu'ils ont enfanté, mais qui, en réalité, peut devenir grand et puis leur échapper. Oh, je veux dire ici que la mondialisation, qui est donc l'utilisation des sciences et des techniques pour transformer notre monde en un village planétaire, c'est-à-dire où les êtres humains ont la possibilité de communiquer, d'échanger, plus facilement, mais de manière très très vertigineuse, qui transforme le monde donc en un village où les gens sont très proches les uns des autres, où on peut communiquer. Si pour eux, ils ont créé cette situation-là pour dominer les autres, puisqu'ils ont les moyens les plus puissants, c'est eux qui maîtrisent justement ces moyens de communication et de diffusion de l'information. A priori, ils pensent peut-être que, puisque c'est eux qui maîtrisent tous ces moyens-là, ils peuvent influencer les autres et faire en sorte que leur civilisation prenne le dessus sur les autres civilisations. En réalité, si je parle d'autres civilisations, je ne parle que de la civilisation de l'islam. Parce que je vous le dis, je ne suis pas le seul d'ailleurs à le dire, beaucoup de gens l'ont écrit, les autres civilisations ont baissé les bras devant l'avancée, le déferlement de la civilisation occidentale. Eux-mêmes, ils le savent. La résistance n'existe qu'au niveau des musulmans, au niveau de la civilisation de l'islam. Et cette résistance va continuer. Parce que l'islam doit rester, doit prévaloir. L'Occident lui-même aura besoin de l'islam, ou a besoin aujourd'hui de l'islam. L'islam ne doit pas disparaître. La civilisation de l'islam doit revenir, doit reprendre le leadership de l'humanité pour que l'humanité, pour que l'être humain redevienne un être humain. Ça, c'est extrêmement important. Alors, dans cette situation-là, je fais allusion au livre que je viens d'avoir d'un de nos frères tout ce matin, dans lequel un de nos savants a écrit un livre qu'il a intitulé « Islamiser la modernité ». Je veux dire ici que les musulmans, s'ils s'organisent, peuvent islamiser la mondialisation. De quelle manière on islamise la mondialisation ? C'est précisément d'utiliser une injonction, ou bien de répondre à un ordre qui a été donné par les musulmans dans le Coran, ou bien une description que Dieu a faite des musulmans, de la communauté musulmane dans le Coran, que nous devons affirmer, que nous devons appliquer, que nous devons vivre, dont j'ai parlé il y a quelques jours dans un exposé, dans une conférence. C'est justement la mission de la shahada, la mission du témoignage. Parce qu'il y a des penseurs musulmans qui disent que la répartition, je crois que j'ai eu l'occasion d'en parler une fois, il n'y a pas longtemps, des savants qui disent que la répartition que les premiers musulmans, les premiers jurisconsultes de l'islam ont en fait du monde sur le plan des relations internationales, qui avait divisé le monde en trois parties, le Darul Islam, qui est la terre de l'islam, le Darul Ahd, qui est la terre où les pays qui sont liés aux musulmans ou à l'État islamique ou à la communauté musulmane par un traité, n'est-ce pas ? Et le Darul Harb, qui est donc les pays qui sont en guerre avec les musulmans. C'est ainsi que le monde a été divisé sur le plan des relations internationales par les premiers jurisconsuls. Des savants musulmans contemporains ont dit qu'aujourd'hui, cette répartition peut être dépassée pour qu'on arrive à une autre répartition qui est de diviser le monde en deux parties. Le Dar al-Islam et le Dar al-Shahada. Le Dar al-Islam qui est donc la terre de l'islam, l'espace de l'islam où vivent la communauté musulmane, les communautés musulmanes. Et le Dar al-Shahada, c'est justement ce que nous procure par exemple Internet, qui est cet instrument formidable de la mondialisation, qui nous permet de témoigner. Parce qu'il y a un verset du Coran qui le dit. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. C'est ainsi que nous avons fait de vous la communauté du juste milieu pour que vous assumiez justement ce rôle de témoignage devant Dieu le jour des comptes vis-à-vis des autres communautés. Et que le prophète soit votre témoin. De quel témoignage s'agit-il ? Il s'agit d'utiliser ces moyens formidables de la communication et de la diffusion de l'information pour exposer le message de l'islam aux autres communautés. Pour dire aux autres communautés, voilà l'islam, voilà ce que nous avons. Voilà la voie que Dieu nous a donnée, dont vous avez besoin pour aller vers Dieu, pour atteindre Dieu, pour accéder à Dieu parce que vous avez besoin de cela. Donc, c'est de ce témoignage-là qu'il s'agit. Il s'agit donc de mettre à profit la mondialisation, la transformation de notre monde en un village planétaire pour communiquer avec les autres, pour présenter l'islam, puisque dans un tel contexte, l'islam ne peut qu'être accepté. Si l'islam est bien expliqué, si l'islam est bien exposé, nous avons vu que l'islam est conforme à la raison de l'homme, conforme à la nature de l'être humain. Tout ce qui est dans l'islam, que ce soit les interdits ou bien ce qui est autorisé, tout cela, les savants musulmans, depuis très longtemps, ont tiré les conclusions. Vous avez l'imam Ash-Shatibi, par exemple, dans ses fameux Al-Muwafaqat, qu'il a dit, Al-Maqasid al-Islam, tout ce que l'islam demande de faire en bien ça va dans le sens de l'intérêt de l'être humain. Et tout ce qu'il interdit à l'homme, cette interdiction-là va dans le sens de l'intérêt de l'être humain. Il n'y a pas une loi de l'islam qui ne répond pas à ce qualificatif-là. Ça n'existe pas. Donc, il faut présenter l'islam, et c'est ainsi d'ailleurs que nous avons, alhamdoulilah, des savants aujourd'hui, contemporains, comme le cheikh Youssouf Al-Qardawi, qui a un site très important sur Internet. Je viens d'apprendre aujourd'hui, même par un des frères, que le site est entretenu à raison de près de 14 milliards de dollars par an. 14 millions de dollars par an. Un site qui est très important sur lequel on découvre l'islam. Nous avons plus de 600 millions d'internautes, c'est-à-dire de gens qui sont sur Internet. Et voilà, nous pouvons donc transmettre le message de l'islam à 600 millions de personnes et ça passe à la vitesse de la lumière. Puisque chaque personne qui est sur Internet peut consulter ce que l'information que nous donnons sur l'islam, non pas pour aller faire, si vous voulez, islamiser les gens, mais tout simplement pour que les gens sachent qui nous sommes, qui est l'islam, qu'est-ce que c'est que l'islam, et comment les musulmans, quel est l'apport, quelle est la contribution.